Dieu a utilisé les enfants et les jeunes. Les adultes sont souvent réticents à l'idée d'utiliser des enfants dans le ministère, mais Dieu ne l'était certainement pas. De nombreux récits bibliques le confirment. Commençons par l'Ancien Testament. 1. Samuel. Vous vous souviendrez que dans 1 Samuel 1 et 2, Anne était stérile et a prié pour que, si Dieu l'aidait à tomber enceinte d'un fils, elle le donne au Seigneur tous les jours de sa vie, 1 Samuel 1:11. Dieu a honoré sa prière et, depuis qu'il était tout petit, elle l'a laissé au temple pour servir Dieu sous la direction du prêtre Élie, dont les fils se comportaient très mal, 1 Samuel 2:12. Mais à l'inverse, 2:18 dit « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » En 1 Samuel 2:26, nous trouvons un verset inhabituellement reconnaissable, à l'exception de celui que nous savons être ailleurs. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Nous connaissons ce verset grâce à Luc 2:52 où il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Tous deux nous présentent les clés du holisme biblique, à savoir le physique, le mental, le social et le spirituel. Pour nous préparer à ce qui va suivre, l'auteur nous dit délibérément en 1 Samuel 3:1 que « la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. » Il s'agit donc d'une période de sécheresse spirituelle. N'est-il pas significatif que Dieu n'ait pas donné de parole au prêtre? Après tout, il était le chef spirituel? Mais non, il l'a donné à un petit garçon. Voilà qui devrait remettre en question bien des présupposés. Lorsque Dieu a appelé Samuel une nuit, il a cru qu'il s'agissait d'Élie et il est allé le voir pour savoir ce qu'il voulait. Cela s'est reproduit deux fois. Élie a compris que c'était Dieu lui-même qui appelait Samuel et il lui a dit ce qu'il devait dire. N'est-il pas frappant que le texte ne nous dise pas ce qui est arrivé à Élie à ce moment-là? Je parie qu'il a passé le reste de la nuit à se poser des questions, je me demande pourquoi Dieu parle au petit Samuel plutôt qu'à moi. Ce n'est qu'un garçon. Après tout, je suis le prêtre. C'est moi qui devrais le faire. Vient ensuite un verset très important, à savoir 1 Samuel 3:10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Remarquez que Dieu n'a pas envoyé un ange ou un messager, il est venu personnellement. Si vous n'aviez pas lu l'histoire, quel genre de message penseriez-vous que Dieu délivrerait à un enfant? Oui, on peut vous pardonner de dire. Un message très simple, facile à comprendre et à transmettre. Mais encore une fois, devrions-nous être pardonnés de limiter à la fois Dieu et les enfants en disant cela? Il suffit d'écouter ce que Dieu a dit à Samuel de dire à Élie dans 1 Samuel 3, 11-14. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes. » C'est un message très difficile et compliqué, d'abord à retenir et ensuite à transmettre plusieurs heures plus tard. Mais Dieu l'a confié à un enfant. Et nous voyons quelques versets plus loin qu'il l'a transmis avec beaucoup de justesse. À partir de ce moment, la vie de Samuel a été totalement transformée, et il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin de ses jours, un leader puissant en Israël dont on se souviendra toujours pour sa proclamation directe du message de Dieu. 1 Samuel 3:19 dit « Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Nous ne devrions jamais conclure que Dieu ne peut pas utiliser des enfants pour accomplir ses desseins. David. Lorsque Dieu a demandé à Samuel d'oindre le deuxième roi d'Israël, il lui a dit que ce serait l'un des fils d'Isaïe, 1 Samuel 16:1. Jessé pensait que ce serait l'un des garçons les plus âgés, mais lorsque 7 de ses fils ont été envisagés et que Dieu les a tous rejetés, Samuel lui a demandé s'il avait d'autres fils. Sa réponse en 1 Samuel 16, 11b reflète ce que beaucoup d'églises croient au sujet des enfants. Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » En d'autres termes, il n'est pas possible qu'il soit le roi parce qu'il est trop jeune. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses et David est choisi comme prochain roi alors qu'il est encore un enfant. Dans 1 Samuel 17, nous lisons qu'alors qu'il était encore adolescent, David a tué le géant Goliath et a incité sa nation à mettre en déroute les redoutables Philistins. Sa célèbre déclaration en 1 Samuel 17h45 a fait l'objet de nombreux sermons. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David est devenu le plus grand roi de l'Ancien Testament. Josias. Israël et Juda ont eu beaucoup de mauvais rois et il est difficile de trouver beaucoup de rois qui ont plu à Dieu. L'un d'entre eux est Josias, qui est arrivé au pouvoir après 2 générations de méchanceté flagrante dans le pays, et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'avait que 8 ans, 2 Chroniques 34, 1. Nous lisons au verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Le verset 3 nous apprend qu'à l'âge de 15 ans, la 8e année de son règne, alors qu'il était encore un enfant, il commença à chercher Dieu, et qu'à l'âge de 19 ans, la 12e année, il commença à se débarrasser des hauts lieux et des images taillées et en métal. Les versets 4 à 7 précisent. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus, il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié, et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Le Beulier VS Bible Commentary, commentaire biblique du croyant, dit « Les autels idolâtres que Manassé avait enlevés de la ville, 33, 15, avaient été ramenés par Amon et le peuple. La 8e année de son règne, le roi Josias, adolescent, commença à rechercher le Dieu de son père David. 4 ans plus tard, il commença ses réformes. Josias veilla à ce que la même erreur ne se reproduise pas. Il détruisit complètement tout ce qui était lié à l'idolâtrie et le brûla ou le réduisit en poudre. Il étendit ses réformes jusqu'aux confins d'Israël. Soulignez avec vos élèves que tout cela s'est passé alors que Josias était encore adolescent. C'est le bon moment pour discuter avec eux des implications que cela peut avoir pour leur propre congrégation. Les autres réformes introduites par Josias à l'âge adulte sont décrites dans 2 Chrétiens 34 et 35. Esther. Afin d'apprécier pleinement cette histoire, vos élèves auront besoin de quelques informations de base. La Bible d'étude ESV nous le dit. Esther appartient à la période qui suit l'exil babylonien, lorsque la Perse a remplacé Babylone comme puissance dominante. L'histoire se déroule à Suse, l'une des capitales perses, sous le règne du roi Assuérus, mieux connu sous son nom grec de Xerxès Ier, 486 à 464 avenue. J.C. Certains juifs sont retournés à Jérusalem, où ils jouissent d'un contrôle raisonnable sur leurs propres affaires. D'autres, comme Esther et Mardoché, sont toujours en exil. En tant que groupe minoritaire, les juifs étaient considérés avec suspicion et leur existence était parfois menacée. Esther 2, 5-7 développe ce point. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebuchadnetsar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Le mot hébreu traduit ici par « jeune femme » peut être traduit par « fille » ou « jeune fille ». Je pense qu'il s'agissait d'une jeune fille à la fin de l'adolescence. Le chapitre 1 raconte que la reine Vasti a refusé de se rendre auprès du roi lorsqu'il l'a convoquée, ce qui lui a valu d'être bannie et de ne plus jamais le revoir. Le chapitre 2 décrit comment les belles vierges du pays, dont Esther, ont été rassemblées, après une période de préparation, chacune a passé une nuit avec le roi. Celle qui lui plaisait le plus deviendrait la nouvelle reine. Esther a conquis le cœur du roi et a été choisie comme nouvelle reine. Personne ne savait qu'elle était juive, mais il est clair que Dieu avait placé cette jeune fille dans le palais afin de l'utiliser plus tard pour sauver la nation juive de l'anéantissement. Vous pouvez lire comment cela s'est produit dans la suite du livre. La servante de Naaman dans 2 Rois 5, nous parlons d'un homme appelé Naaman, qui était commandant en chef de l'armée syrienne et le plus haut gradé du roi Ben-Hadadi. Le verset 1 le décrit comme un « grand homme » en « haute faveur » auprès du roi, un homme puissant et vaillant. Oui, Naaman n'était pas un soldat ordinaire, c'était l'un des meilleurs. Et il était si bon qu'il était devenu le commandant en chef. Mais il y avait un très gros problème. Il était atteint d'une maladie redoutable, la lèpre. Le deuxième verset introduit l'héroïne de l'histoire car il nous dit « Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Même si elle n'est qu'une petite fille et qu'elle sert un maître païen, elle a le courage de s'avancer et de proposer à Naaman d'aller en Israël voir Élisée, dont elle est absolument sûre qu'il pourra le guérir. Quelle initiative ! Quelle foi ! En tant qu'adulte, nous ne devrions jamais tomber dans le piège qui consiste à rejeter les enfants. Et quels furent les résultats ? Sans tarder, Naaman est allé demander la permission à son patron, le roi, qui, étonnamment, a répondu avec la même hâte et lui a dit d'y aller. La suggestion de la petite fille a été utilisée par Dieu d'une manière étonnante. Élisée dit à Naaman de se plonger cette fois dans le Jourdain et après que ses serviteurs l'aient persuadé d'obéir, nous lisons au verset 14. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ironiquement, sa chair est devenue comme la chair d'un petit enfant. Et il y a un autre résultat très important qui se trouve au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Ainsi, Dieu a utilisé une petite fille, dont nous ne connaissons même pas le nom, une petite fille insignifiante, pour conduire son maître païen non seulement à la guérison d'une affection cutanée très grave, mais aussi, ce qui est bien plus important, à sa guérison spirituelle. Nous nous tournons maintenant vers le Nouveau Testament. Marie. La Bible ne mentionne pas l'âge de Marie lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel ou lorsqu'elle a donné naissance à Jésus, mais dans l'ancien Israël, il était courant que les filles se marient entre 12 et 14 ans. En outre, il nous est dit dans Matthieu 1h18 qu'elle était fiancée à Joseph. Il est donc probable que Marie avait 13 ou 14 ans lorsque Jésus est né. Dieu a choisi une jeune adolescente pour être la mère de son fils. N'est-ce pas étonnant ? Là encore, nous devrions en discuter avec nos étudiants et leur demander quelles sont les implications pour l'Église. Le garçon qui a donné 5 pains et 2 poissons. L'histoire bien connue du repas des 5000 hommes est l'un des deux seuls miracles rapportés dans les 4 évangiles, l'autre étant la résurrection. Pourtant, un seul auteur, Jean, mentionne le petit garçon. Les 3 autres ignorent totalement la source de la nourriture. Cela en dit long sur leur attitude à l'égard des enfants, mais j'en dirai plus à ce sujet dans le prochain résultat. Nous ne savons pas quel âge avait le garçon dans cette histoire. Peut-être que Jean 6. Janvier 2013, n'a pas vraiment prêté attention à l'enfant, comme tant d'autres dans la foule, comme tant d'autres aujourd'hui dans l'Église. Nous ne connaissons pas non plus son nom. Personne n'a pris la peine de le découvrir, après tout, ce n'était qu'un garçon. Nombreux sont ceux qui partagent ce point de vue aujourd'hui. Il n'est mentionné dans aucun autre évangile, car pour les auteurs de l'évangile, le fait que ce soit un enfant qui ait renoncé à son repas n'était même pas remarqué. André dit qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, mais remarquez l'accent qu'il mettait sur ce point, mais qu'est-ce que c'est pour une si grande quantité ? Verset 9. Quelle était l'attitude de Jésus ? Le verset 6 nous dit que « lui-même savait ce qu'il allait faire ». Vous voyez, bien avant l'heure, Jésus connaissait déjà l'existence du petit garçon. Il savait qu'il avait un panier repas de sa mère, et il savait que le petit garçon serait prêt à donner son repas pour que Jésus puisse l'utiliser pour accomplir un miracle étonnant, nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, peut-être 14 000 personnes. Tout cela grâce à la générosité d'un petit garçon. Tous ces témoignages doivent nous convaincre que nous devrions également utiliser les enfants et les jeunes dans le ministère. Chers animateurs, demandez à vos étudiants de dresser une liste des enfants et des jeunes nés de nouveau dans leur église et, à côté de chacun d'eux, d'indiquer les dons et les talents qu'ils possèdent. L'étape suivante pour les étudiants est bien sûr de commencer à encourager ces enfants à utiliser leurs dons et leurs talents pour le ministère. Les commentaires qu'ils donneront lorsqu'ils auront fait cela et vu les résultats seront passionnants pour tous, mais le plus important sera le fait que ces enfants ont commencé un voyage qui aura une valeur à vie pour eux et pour le royaume.